Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. À la descente du train, j'avais 1 franc en poche et je tenais fermement tout ce que je possédais au monde, une petite valise en carton contenant quelques affaires. Je me demandais quelle place je parviendrais à trouver parmi ce grouillement de gens affairés sur les trottoirs. Mon sort dépend de cette ville. Si elle ne m'ouvre pas ses portes, je les forcerai, j'y prendrai racine. Dans le Paris d'après-guerre, un étranger était considéré comme un être potentiellement suspect. J'avais choisi la France, mais la France, elle, ne m'avait pas choisi et s'occuper d'un réfugié juif qui venait de recevoir 6 millions de morts en héritage n'était alors l'affaire de personne. Le réfugié juif qui parle ici, comme le personnage d'un roman d'apprentissage, arrive de Roumanie. Serge Moscovici est un rescapé et un témoin qui a 22 ans en 1948 quand il se promet de forcer Paris. Il ne sait pas encore qu'il deviendra l'un des grands noms des sciences humaines et de la psychologie sociale en France. Mon après-guerre à Paris, chronique des années retrouvées, qui vient de paraître chez Grasset, est le récit d'un exil, d'une survie et d'une formation. C'est un livre étonnant, composé à titre posthume à partir de fragments manuscrits retrouvés, qui témoigne puissamment de ce que pouvait être l'existence précaire et douloureuse d'un juif en provenance d'Europe de l'Est, dans la France d'après-guerre. Bonjour Pierre et Denis Moscovici. Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce livre de votre père. J'aimerais, avant qu'on l'ouvre à proprement parler, qu'on évoque un livre précédent, qui est « Chronique des années égarées », un livre que Serge Moscovici a publié en 1997, et dont ce livre, « Mon après-guerre à Paris », est en quelque sorte la suite. La suite improbable, enfin, pour vous, hein, puisque, comme je le rappelais, il a été composé à partir de notre retrouvée. Alors, Pierre Moscovici.
C'est vrai que ce livre, d'une certaine façon, est une surprise. Nous savions que notre père y avait travaillé pendant une dizaine d'années, mais le livre n'existait pas. Et à la fin de sa vie, notre père était fatigué, donc nous avons pensé qu'il avait abandonné ce travail. Et puis, dans une armoire, chez lui, à sa mort, on a retrouvé des fragments qui ensuite ont été recomposés, avec l'aide d'Alexandra Lénier-Labastine, soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à laquelle nous avons donc une très grande gratitude. Et ce livre est la suite parisienne, si j'ose dire, d'un livre précédent qui avait été écrit et publié en 1997, qui retraçait son enfance à Bucarest. Alors s'il est arrivé, s'il est 22 ans en 48, c'est qu'il avait 15 ans au début de la guerre, c'est qu'il a vécu ça à Bucarest, c'est qu'il a vu les pogroms qui, comme il le dit dans ce livre aussi, lui ont débranché les nerfs de la vie. Il a là eu effectivement ce projet, nourri ce projet, de partir de Roumanie et d'aller vers Paris qu'il avait choisi. Alors, les phrases que vous avez choisies sont un peu paradoxales parce qu'elles sont un peu racinianiennes. On a l'impression qu'il y a un homme qui vient conquérir Paris.
Je parlais de roman d'apprentissage, voilà. Quelque chose comme ça.
Et je ne suis pas certain que ce soit tout à fait la personnalité qu'avait notre père, un peu plus complexe que ça, à la fois sûr de lui à certains égards, persuadé d'avoir un talent, mais aussi avec un très grand doute personnel, voire, c'est vrai, parfois des composantes de dépression, qui pouvait le mettre dans des états noirs, car c'était aussi ça la mémoire de la guerre, c'était aussi ça l'empreinte de la guerre. Donc il y a effectivement 2 livres, la chronique des années égarées,
Donc, effectivement, il a composé lui-même.
Et puis, la chronique des années retrouvées. Et je dois dire, j'arrête, que les deux sont pour moi, d'une certaine façon, une surprise, parce que le premier livre était le résultat d'un silence, un silence à notre endroit, une histoire que nous connaissions un peu, mais très peu, qu'il avait caché d'une certaine façon, il avait besoin de l'écrire. Et le deuxième, la surprise d'un livre retrouvé lui-même. Ces années sont retrouvées, le livre est retrouvé aussi.
Absolument. Et le premier livre se termine. Le premier livre, pour compléter ce que vient de dire Pierre, retrace tout ce trajet dans la Roumanie d'avant-guerre, puis de la guerre, puis de l'après-guerre. Dans l'après-guerre, avec beaucoup d'attermoiements, beaucoup de réflexions sur où va se passer mon avenir. Dans une Roumanie qui se refermait après quelques années d'après-guerre, peut-être un petit peu plus ouverte, et donc des réflexions qui l'ont conduit à réfléchir sur l'endroit où il souhaiterait passer sa vie finalement, puisqu'il savait qu'il n'avait aucune chance, aucun espoir dans ce pays qui s'était comporté à l'égard des Juifs de manière extrêmement dur, et donc des réflexions sur est-ce qu'il faut partir à Moscou parce qu'il y avait le communisme, est-ce qu'il faut partir en Israël parce qu'il y avait le sionisme, ou est-ce qu'il faut aller vers la culture, vers le le pays qui représentait pour les Roumains et en tout cas pour mon père la culture, c'était la France et c'était Paris. Et d'ailleurs le livre précédent s'achève sur un chapitre qui s'intitule Paris, Paris. Voilà, donc il a vraiment décidé à un moment donné d'aller à Paris. Et après un périple d'un an, il est arrivé ici, et c'est ainsi que démarre ce deuxième volume.
Oui, la question de la destination, elle est importante, il y revient notamment au début du livre, ça commence comme ça. Pourquoi Paris et non pas Moscou? Il était programmé dans une certaine mesure pour aller à Moscou, il était un militant communiste adolescent, il le raconte, ça a été... Il est dans une organisation, il avait 16-17 ans, hein, très très vite, il y a une expression comme ça, il voit bien que quelque chose ne tourne pas rond avec le parti et il décide très vite de ne plus aller à Moscou. En revanche, on peut se demander, et là il est, je trouve, moins précis, moins disert sur cette question-là, pourquoi pas Israël, d'autant plus qu'il est militant aussi sioniste, il y a un sous-chapitre qui s'appelle l'engagement sioniste, il raconte qu'il a envoyé dans les camps de déplacés pour faire la propagande sioniste, hein, pour aider les réfugiés à partir vers ce qui n'est pas encore Israël à l'époque. Pourquoi pas? Et on sent qu'il a un rapport complexe à Israël.
Mais je pense que, non, vous dites, c'est un militant communiste. Militant
communiste un peu particulier. Non, bien sûr,
militant communiste, c'est-à-dire adolescent, et puis un adolescent qui, en quelques mois, se rend tout de suite compte que quelque chose ne tourne pas rond, n'était pas fait pour être un communiste.
Bien sûr.
Donc c'est pas Jacques Duclos, quand même.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Quant au sionisme, il y a, je pense, que une composante qui est d'aider les réfugiés, les personnes déplacées, d'être à leur côté, d'assister à leur souffrance, la souffrance des femmes, surtout sur lesquelles il y a de belles pages. Mais pour autant, je ne crois pas que ça a été sa destination propre. Mmh. On peut à la fois aider les personnes déplacées, penser qu'Israël est un foyer pour les Juifs qui ont souffert de la guerre, sans pour autant se l'approprier soi-même. Et puis alors, si on tentait une explication psychanalytique, je l'improvise, j'ai envie de dire qu'il n'est pas allé en Israël parce que ses parents y étaient. Mmh. Et il n'avait pas envie d'être avec eux, je crois. Et puis par ailleurs, il y avait ce projet qu'il avait formé, qui était de devenir un homme de savoir. Et ça, c'était Paris, comme le dit Denis. Paris, c'était à l'époque le capital intellectuel, le phare du monde. Je suis pas sûr que ça le soit encore aujourd'hui. Je sais pas quelle destination il choisirait. Peut-être qu'il franchirait l'Atlantique, d'une certaine façon, aujourd'hui. D'ailleurs, il l'a franchi beaucoup au cours de sa vie, ensuite.
Alors, vous dites c'était le savoir, Paris c'est les livres, hein, y a des pages sur les livres, il y a des pages sur les bibliothèques, et qu'on parle à la bibliothèque de Sainte-Geneviève à une yeshiva, à un moment donné, y a l'idée de devenir un homme d'études, la formule revient... de nombreuses fois dans le livre, je lis un tout petit passage, hein, où il évoque son père. Mon père, qui s'était laissé convaincre que je devais entrer au lycée, m'avait parlé avec déférence des études, mot qu'il prononça en yiddish afin de lui réciter toute sa solennité. À ses yeux, un juif devait avant tout étudier, car quel que soit le motif qui nous anime au début, on finit par aimer l'étude pour elle-même. Et on voit, là, moi j'ai pensé en lisant toutes ces pages aux pages de Jean-Claude Milner sur la manière avec laquelle les juifs laïcisés deviennent des juifs d'études dans les savoirs, dans les sciences humaines, dans le savoir laïque à partir du 19e siècle et après l'émancipation. Donc c'est vraiment, il est typique de cette chose-là. Alors on peut évoquer quand même le climat dans lequel il est, justement. Il veut devenir un homme d'études. Comme je le rappelais tout à l'heure, il arrive avec un franc en poche. C'est vrai qu'il y a quelque chose de rastignacien dans la formule, dans la phrase « forcer Paris ». Mais en vérité, il y a quand même... Moi, je l'ai vraiment lu comme un roman de formation, un bildungsroman, un roman d'apprentissage. Mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un qui part de rien et qui va aller quelque part avec tous ses doutes, toutes ses difficultés. Il y a quelque chose d'assez beau dans toute la première partie du livre. C'est cette petite micro-communauté de réfugiés roumains. Je dis micro parce qu'ils sont quelques-uns. Et puis, il y a évidemment ce trio d'amis, le trio des métèques, comme il en parle, à savoir, et pas n'importe qui, hein, Paul Celan, Isaac Kiva, qui va devenir le patron du laboratoire de Claude Lévi-Strauss. Évidemment, Paul Celan, figure mythologique du grand poète qu'il a été. Ce petit monde se tient les coudes et on peut dire que c'est cette amitié qui les fait tenir. Hein.
Absolument, tout à fait. Mais c'est parfaitement décrit d'ailleurs dans le livre, je crois. Cette bande de métèques qui se trouve d'ailleurs dans le quartier ici, hein, puisque c'est pas loin, qui se retrouvait, c'est au quartier latin. C'est dans
on
les
parle de la cantine au coin de la rue Claude Bernard et de la rue de la...
Exactement, il faut savoir que d'ailleurs, notre père a vécu rue Claude Bernard dans les années 70. Hein, c'est un quartier qu'il affectionnait tout particulièrement et dont le déclin d'ailleurs l'a beaucoup peiné sur la fin de sa vie. Enfin, vous disiez un homme d'études et de savoir, et c'était une forme de continuité. Le livre précédent décrit également un drame personnel de notre père, avant de parler du drame de la grande histoire. C'est le drame de la séparation de ses parents qui s'est passé durant son enfance. Et à l'époque, les ruptures étaient assez contractuelles ou conventionnelles. Notre père s'est retrouvé avec son père et sa sœur s'est retrouvée avec sa mère. On a d'ailleurs beaucoup voulu à sa mère qui, pensait-il, l'avait abandonné. Pas tout à fait nécessairement l'histoire véritable. Toujours est-il que son père, il y a eu beaucoup de conflits avec son père, ils étaient d'ailleurs après-guerre extrêmement fâchés, et les conflits portaient aussi sur les études. Notre grand-père, que nous n'avons pas connu, souhaitait que notre père soit plutôt fait des études d'ingénieur, que des études telles que celles qu'il a entreprises par la suite, et dont l'intérêt pour la psychologie ou pour les sciences humaines lui est venu de ses lectures pendant la guerre. Donc il avait plutôt été tourné vers des études de psychologie, mais plutôt il est arrivé ici avec un diplôme de tourneur, fraiseur, ajusteur.
Oui.
Voilà. C'est important quand même, parce qu'il n'était pas du tout l'homme de savoir, il n'était pas dédié par son père en tout cas. Vers cette étude.
Pour reprendre ce que vous disiez sur le Bildungsroman, il y a effectivement quelque chose de cette nature-là. Et vous citiez cette attirance des Juifs d'Europe de l'Est pour le savoir, la façon dont ils sont dirigés vers les sciences humaines. C'est aussi de ça dont il s'agit. Oui, je pense que ce livre vous montre bien comment les sciences humaines françaises, dans les années 50, après-guerre, ont été nourries par ces Juifs rescapés, survivants, et voulant aller vers le savoir, justement, pour comprendre et pour éclairer le monde. Et c'est un livre qui, finalement, nous l'avons écrit dans la préface, parle de trois catégories, finalement, post-face de personnes. D'abord, les amis, parce que pour lui, c'était extrêmement important, mais ses amis sont effectivement des gens qui étaient comme lui, vivaient dans la misère, vivaient dans le froid, dans les hôtels du quartier, mangeaient peu, avaient faim. Enfin, c'était quand même Lucien Goldman, c'était André Schwarzbart, c'était Paul Celan, c'était Isaac Kiva, c'était quelques autres personnes qui ont ensuite compté dans la littérature ou dans les sciences sociales. Et puis ensuite, il y a les maîtres. Les maîtres, c'est pour l'essentiel Daniel Lagache et Coiré. Ouais. Et puis, il y a les femmes, c'est la troisième partie du livre, la plus intime d'une certaine façon. Mais on voit bien à travers ça, cette formation, mais comme dit Denis, je crois qu'il a raison, il faut replonger dans l'enfance. Notre père écrivait dans son premier livre que la clé d'une personnalité, c'était d'avoir connu une enfance malheureuse, que c'était un grand atout, je n'en suis pas persuadé. Mais pour lui, c'est certainement quelque chose qui est la clé de son moteur, au fond, de ce qui l'animait et de ce qui l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu.
Ce qui est intéressant sur ce qui va devenir ses objets d'études, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand il arrive au début, il y a une expression comme ça, je veux faire une œuvre. Et on sent qu'à l'origine, il a 20 ans, 22 ans, il ne sait pas exactement où il va aller.
C'est une œuvre littéraire, parce qu'il a écrit un roman.
J'allais dire, il a avec lui un roman, La Mer Rouge, dont on apprend. Moi, je suis très triste et je me disais, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, ce manuscrit. Puis on apprend plus loin dans le livre, quand on avance, qu'il l'a jeté définitivement. Mmh. Alors, il parle de ce projet de faire quelque chose qui ressemble d'ailleurs au dernier des Justes de Schwarzbach. On a l'impression que c'est une grande fresque sur l'engloutissement des Juifs d'Europe. Évidemment, on ne sait pas ce que ce sera. Il fantasme, je lisais un passage où son père l'appelait à faire des études. Alors, vous avez raison de rappeler que l'idée des études qu'il avait, c'était pas forcément celle qu'il a faite. Mais on voit bien que c'est lié, enfin, qu'il y a quand même une injonction paternelle à faire des études.
Cela dit, il y a des choses comme ça qui font écho, parce que notre père aurait souhaité aussi, d'ailleurs Denis l'a fait, que nous fassions des études d'ingénieur. Moi, j'ai beaucoup résisté.
Mais lui, son fantasme, il cite Spinoza, Marx, Einstein, mais il sait pas trop. Il y a effectivement les rencontres Coiré, grande figure de l'épistémologie française, enfin, certains russes, mais française. Il y a une chose qui est passionnante, je trouve. Il y a une phrase à un moment donné, mais il y en a plusieurs qui donne cette même idée. Il dit « Mon passé n'a jamais cessé de travailler secrètement mon œuvre ». Et en fait, ce dont on se rend bien compte dans ce livre, c'est que c'est sa biographie même qui va susciter ces objets d'études. Alors, il évoque parfois il y a des considérations, on pourrait dire presque quasiment historico-métaphysiques, où il dit, quand il parle de la vérité de l'humanité qu'il découvre en étant témoin et rescapé du pogrom de Bucarest, et on sent bien qu'il y a quelque chose là qui va devenir la vérité à comprendre fondamentalement. Hein. Mais bon, faut citer quand même des livres de Serge Moscovici, L'âge des foules, un traité historique de psychologie des masses. On pourrait dire seul un réfugié, un rescapé juif peut à un moment donné se poser de manière extrêmement fondamentale cette question-là. Ensuite, les minorités actives, où il parle de cette marginalité active des outsiders. Donc il y a un lien à un moment donné entre l'autobiographie, ce qui se joue intimement dans son corps et ses objets d'interrogation théorique, quoi.
Absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors effectivement, vous mentionnez ces livres qui sont ceux de la psychologie sociale, hein, dont
j'en cite deux parmi une biographie abondante.
Qu'il a contribué à faire revivre après la guerre, effectivement. Certains disent que notre père était un encyclopédiste. Hein. On a organisé un colloque en hommage à notre père après son décès en 2017. Et je crois que c'est Edgar Morin qui l'avait qualifié, ou Alain Touraine, je ne sais plus lequel des deux, mais l'avait qualifié d'encyclopédiste. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la psychologie sociale, mais dans les disciplines qu'il a voulu travailler, il y a également l'histoire des sciences, ça c'est très peu su.
Il a écrit un livre sur Galilée.
Il a écrit un livre sur Baliani,
qui était un disciple de Galilée.
Exactement.
Voilà. L'expérience du mouvement.
C'est l'épistémologue.
Exactement. Donc un livre qu'il a écrit dans les années 67. Comme ça. Et puis, il y a l'écologie aussi, hein, dans lequel il a été probablement un des premiers théoriciens, en tout cas en France, très engagé par la suite.
Il a été dans les cofondateurs des Verts, il me semble, non?
Il a même été sur une liste électorale de ce quartier, je crois.
1977.
En 1977.
Je crois qu'il était la tête de liste, en fait.
Pas la tête de liste. Je ne crois pas qu'il aurait pris.
J'ai demandé à la mairie de Paris de me retrouver la liste, mais ils n'ont pas jusqu'à présent.
Il y a des pages sur la notion de nature, sur le rapport de la nature. Absolument. Et de la technique dans ce livre. On sent que avant que ça devienne un engagement écologique avec des livres sur des natures dès les années 70-80, c'est une interrogation qu'il a à ce moment-là. Étrangement, je pensais que ça vient de plus tard.
Je pense qu'en réalité, c'était un écologiste, mais c'était pas un décroissant, c'était pas non plus un fondamentaliste. Non. C'était quelqu'un qui effectivement pensait la nature dans son rapport à la culture, et était conscient qu'il fallait écologiser d'une certaine façon la vie. Et donc, il a été un des initiateurs intellectuels de l'écologie. Il avait d'ailleurs écrit aussi un livre sur pourquoi les écologistes font de la politique avec Brice Lalonde et René Dumont, juste avant l'élection présidentielle de 1974. Il était un des compagnons de route du Sauvage, une revue qui était liée au Nouvel Observateur. D'ailleurs, il était très lié aussi au Nouvel Observateur. Mais ça aussi, ça c'était dans ses racines. C'était comment, finalement, on peut retrouver, je pense, aussi un état de nature, une forme d'innocence. Et effectivement, vous citez quelques blocs, la psychologie sociale, comment se forment les groupes. Cette notion de groupe était pour lui tout à fait fondamentale, leurs conflits, leurs interactions, les minorités actives, sans aucun doute, ça renvoie à la judéité, bien sûr. Ça n'a pas besoin d'aller chercher les choses extrêmement loin. L'âge des foules, ça, ce sont les leaders autoritaires, et ce sont des livres tout à fait précurseurs de l'analyse du populisme, comme on dit aujourd'hui. Donc il y a une œuvre qui se fait là, mais dont sans aucun doute la matrice est, comme vous l'avez dit, très intime, très personnelle, très liée à ses origines, très liée à son parcours, très liée à ses souffrances. Et tout ça aussi porté par, encore une fois, les maîtres et l'amitié. Ça, c'est tout à fait fondamental. Les amis, les maîtres. Les amis, les maîtres sont ceux qui créent les conditions pour arriver à accoucher de cette œuvre, pour former sa propre personnalité au milieu de, encore une fois, une psychologie qui était assez particulière, parfois gaie, mais souvent souffrante.
Je fais une micro-parenthèse sur les amis parce qu'on connaît bien Paul Celan, on connaît moins Isaac Kiva. Le portrait de, c'est un personnage sublime, Isaac Kiva.
Mais Isaac Kiva,
vraiment magnifique.
Je veux dire, Paul Celan, enfin, nous avons. Je suis né en 1957, un petit peu avant Denis. Ce sont des gens qu'on a vus à la maison. Paul Celan était un grand ami, mais on voyait aussi qu'ils avaient une relation un peu plus compliquée, qui était plus distante. Isaac Kiva, au début, était l'ami.
Était
l'homme qui, par la gentillesse, par la douceur, par la présence, le rassurait. Il avait besoin d'être rassuré. Ensuite, il a eu un autre ami, qui n'est pas dans le livre, mais je tiens à le mentionner quand même, qui est un architecte qui s'appelle Gérard Turnover, qui est dans la photothèque. Enfin, les vrais amis, c'est-à-dire les amis, c'est le pilier, la personne à qui on peut tout dire, celui sur qui on peut s'appuyer, c'est au départ Isaac qui va.
C'est vrai, en Roumanie, c'était Isidore Izu. Mais il y a plutôt eu un éloignement, une forme de rupture également.
Mais Izu s'est brouillé avec tout le monde. Il a été compliqué avec tout le monde.
Mais mon père était quelqu'un de fidèle. Et donc il a toujours régulièrement vu Izu, même quand c'était dans des conditions pas toujours très sympathique.
Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que ces deux livres et celui-là aussi vous avez surpris, c'était des secrets? Parce que moi, ce qui me surprend dans ce livre, enfin ce que je découvre dans le livre, c'est, on pourrait dire, un de ces thèmes lancinants derrière effectivement l'amitié, la chronique de la vie à Paris pour un réfugié après-guerre, etc. C'est quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler autrement que l'obstination juive, la fidélité,
oui, mais
la loyauté.
Ils ont surpris, pour moi, ils m'ont surpris par leur existence.
C'est-à-dire,
mais le premier livre, j'y reviens, enfin, Denis l'a dit au passage, nous n'avons pas connu nos grands-parents, du tout. Et je pense que nos grands-parents, soit ils avaient peu de curiosité de nous, soit ils ne savaient pas que nous existions. Je pense que nous étions peut-être un non-sujet dans la famille.
Il dit dans le livre qu'il est sur liste rouge parce qu'il ne veut pas que sa famille en Israël puisse...
Absolument, oui. Il y avait quelques lettres et peut-être un ou deux voyages. Mais enfin bref, il y avait quand même quelque chose qui était de cette nature-là. Et au fond, dans la famille, il y avait des allusions. Enfin, imaginez que vous avez des grands-parents, ils meurent, vous ne les avez jamais connus. Et il y a toute une histoire antérieure. Le livre part en 1997. Moi, à l'époque, je venais d'entrer au gouvernement de Lionel Jospin. J'avais 40 ans. Et toute cette histoire, tout à coup, arrive comme un bloc, en détail, qui n'avait jamais été dite dans la famille. C'est une surprise. Une heureuse surprise. Enfin, encore que, à l'époque, je l'avais, moi, très mal vécu. Et très mal pris, d'ailleurs. C'est un livre que j'ai mal lu à l'époque. Je n'ai relu que quand notre père est mort en 2014. Tellement j'étais fâché. Fâché de découvrir par écrit quelque chose que j'aurais dû savoir par le récit. Et puis le deuxième est une surprise différente, parce que c'est un livre qui lui était très très cher, qu'il a consacré ses dernières forces, mais il n'était pas arrivé au bout, et il avait abandonné. Et il avait laissé des fragments, qui ensuite ont été reconstitués par Alexandra Lavalcine, qui est là à faire un travail tout à fait remarquable.
Il faut vraiment saluer ce travail.
Que je salue, et qui est magnifique. Mais voilà, donc deux surprises comme objet.
On n'a pas nécessairement la même expérience sur ce sujet. Comme vous le savez, deux enfants n'ont pas toujours les mêmes impressions par rapport à leurs parents. Le premier livre était une surprise, et il a probablement été écrit effectivement pour nous, mais je crois que ce livre était en gestation pour avoir discuté beaucoup avec notre père de ces sujets-là. Il était en gestation depuis longtemps, depuis un voyage qu'il avait fait en Israël, en fait, à la fin des années 70. Et donc, il a eu à ce moment-là, je pense, la mort de ses parents, la disparition de ses parents dans ces années-là, il a eu une forme de volonté de revenir vers tout cela, et puis beaucoup de questions que nous lui posions. En tout cas, moi, je lui posais beaucoup de questions sur son passé. C'est vrai que nous avions toute une famille dont nous ignorions totalement l'existence en Israël et un peu partout dans le monde, et notamment une tante, puisque notre père avait donc une sœur qui est restée avec sa mère et dont il n'a jamais voulu revoir. Et donc il y avait là aussi une manière de retricoter son passé et de nous livrer des années sur lesquelles il était absolument impossible pour lui de revenir ou de parler. En tout cas, il avait beaucoup de mal à en parler.
L'expérience n'est pas différente, Denis. Tu cherches une différence. Il n'y en a pas. Moi aussi, je savais que c'était en gestation, mais simplement, je n'avais pas envie d'en parler, moi, parce que c'est quelque chose qu'il devait évoquer lui-même.
Mais indépendamment de ce qui pourrait relever de secrets de famille et de choses, on pourrait dire d'anecdotes anecdotique, en tout cas au sein de toutes les familles.
Pardonnez-moi, mais c'est pas un vague secret de famille. Quand tout est caché, et bien sûr, quand tout est silencieux,
ce que je veux dire, qui tient à la singularité d'une expérience précise, de familiale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un nombre de pages où il déclare C'est le thème de l'obstination juive, de la fidélité. Il parle de son cœur hébreu. Le rapport aux Israélites français, il y a une page, des pages absolument tordantes, moi je trouve, avec Pierre Nora et Claude Lévi-Strauss. Mais j'ai envie de lire juste un petit passage. « Le monde des Israélites français nous fascinait tant il nous était étranger, comme si un mur de verre nous en séparait, tandis que beaucoup d'entre eux se voyaient comme des juifs universels abstraits. Nous étions pour notre part des universalistes juifs assez éprouvés pour être pleinement assumés. Les persécutions m'avaient rendu mon identité juive encore plus précieuse, et je n'ai jamais voulu faire partie de ces juifs assimilés, cherchant avant tout à dépasser le juif qu'ils étaient pour devenir des êtres universels. » C'est un livre sur une ce livre, c'est une interrogation sur son appartenance, sur son lien, ce qu'il appelle son identité juive. Il y revient en permanence. Et d'ailleurs, ça finit avec des choses qui vous concernent, vous. Enfin, il dit que jamais il a réussi, je retrouve l'idée sinon la lettre, il dit qu'il n'a jamais réussi véritablement à s'assimiler, il pense que c'est par vous qui êtes devenu, et là l'expression je m'en souviens très bien, des vrais Français qui peuvent faire allégeance à la citoyenne, à la France d'une certaine manière. C'est étrange, enfin, c'est un livre qui est quand même, il me semble que c'est ça le thème fondamental du livre, par-dessus tout, c'est la question de son identité juive et de ce qu'elle devient, de la manière dont elle mute, dont elle se transmet, comment elle se compose avec son devenir français, etc.
Il y a un paradoxe dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques pages où il vient décrire la sécheresse, le snobisme, la volonté d'assimilation d'un certain nombre de grands personnages pour lesquels, par ailleurs, il avait de l'admiration pour Claude Lévi-Strauss ou de l'amitié pour Pierre Nora.
L'assimilation, c'est une chose. Le désir de taire son appartenance, c'est autre chose. Oui. C'est ça qui pointe. C'est pas l'assimilation.
C'est vrai. Il y a des pages critiques sur eux et en même temps, c'est ce qu'il a voulu pour nous. C'est ça qui est amusant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a souhaité, effectivement, que nous soyons, nous, très éloignés de la religion. Parce que nous n'avons fait aucune forme d'éducation religieuse. On a pu le regretter, à un moment donné, d'avoir aucune forme de culture. On était éloignés de tout. Je pense qu'il y avait aussi la crainte qu'il revienne, qu'il y avait une forme, sinon, de maranisme. Enfin, il y a quelque chose d'inconscient comme ça. On n'est pas si
mal. Maran.
Le livre n'est pas maran. Mais l'éducation que nous avons pu avoir.
Moi, je suis désolé de faire
Vous avez un père qui a effectivement une identité juive très profonde, qui d'ailleurs il nous a transmise. Nous sommes les héritiers d'une histoire.
Au fond,
nous l'avons toujours su.
Il
la revendique, mais nous l'avons revendiquée sans la proclamer. Mais en même temps, une éducation incroyablement laïque, éloignée de toute forme de religion. Et donc, il y a là un paradoxe qui est aussi un des paradoxes de sa psychologie.
Qui est effectivement sans doute lié au fait de cette peur de ce que ça peut revenir. Hein. C'est-à-dire que vraiment une volonté une crainte que les événements reviennent, ressurgissent et que nous en pâtissions également. Par ailleurs, il nous a transmis malgré tout beaucoup de choses. Vous mentionnez ses réflexions par rapport au judaïsme si on peut parler de communauté juive française. Je pense qu'il nous a un peu transmis également cette. On s'interroge aussi nous beaucoup par rapport à ce que sont les juifs français aujourd'hui. On peut avoir des interrogations également.
Je finis. Bon, on doit malheureusement s'arrêter. J'ai une micro-question pour vous, Pierre Moscovici, parce que j'ai lu dans un entretien où vous parliez de votre père, que vous disiez de lui qu'il a toujours eu peur pour vous, et sa peur, en tant qu'homme politique, et sa peur s'était accentuée avec l'âge, et il pensait que vous ne pouviez pas devenir président, car il pensait qu'on ne pouvait pas être président en étant le fils d'un juif étranger en France.
Incontestablement, oui. Vous savez, l'histoire politique, c'est une histoire de rencontre. Pour moi, c'était la rencontre d'un autre, qui n'est pas mon père, mais qui est un ami, qui était Lionel Jospin, qui m'a aidé à sortir de moi-même. Moi, j'ai été formé pour être un de ces grands technocrates qui sont dans l'ombre des conseillers. Je me voyais peut-être un jour secrétaire général de l'Élysée, directeur de cabinet du Premier ministre. Mais l'idée même d'être sur une affiche était quelque chose qui m'était totalement étrangère. Il a fallu qu'on m'y pousse. Alors, pensez, président de la République. Et donc, quand je suis devenu député, puis quand je suis devenu ministre, mon père me disait, ils vont te faire du mal. Et à la fin de sa vie, c'est vrai qu'il était beaucoup plus phobique. Quand je suis devenu ministre des Finances, là, il y avait une vraie terreur. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que quand moi, j'ai intégré. Par exemple, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais voulu être président de la République. Peut-être aussi à cause de ça, parce que je pensais que je n'avais pas cette forme de légitimité compte tenu de ses origines, compte tenu de ce qu'on m'avait inculqué. Je ne saurais jamais si j'ai eu raison ou tort, et de toute façon, même si j'avais voulu, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, sans doute, de transmis, et finalement j'ai quand même fait beaucoup plus en politique que ce qu'il aurait voulu.
Il y aurait tant d'autres questions. Il parle de l'Europe, de la spiritualité européenne, ouais. juive européenne. On aurait pu vous poser des questions à vous qui avez été commissaire européen là-dessus. Enfin, malheureusement, on est obligé de s'interrompre ici. Je vous remercie beaucoup de Denis et Pierre Moscovici. Alors, je rappelle que ce livre, donc ce dernier livre posthume de votre père, Mon après-guerre à Paris, chronique des années retrouvées, vient de paraître chez Grasset, qu'on doit le travail formidable de recomposition du peuple à partir des manuscrits retrouvés à Alexandra Léniel-Lavastine, qui a fait une préface de ce livre. Vous avez fait la postface. Merci encore. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.